Je vous écoute écrire. Michel Reverbel, édition compacte, 1993. Je vous regarde parce que j'aimerais savoir pourquoi vous écrivez. Philippe Soupeau, geste d'encre, Saint-Jean-de-Dieu. Une échoppe d'écrivain public. Commencer par le début. Revenir sur le tout début. Pendant 15 ans, d'abord à Valence, puis à Lyon, Nîmes, Toulouse, Nice, Cavaillon, Nantes, et dans bien d'autres villes et localités, j'ai écrit des lettres d'amour et d'injures, d'admiration et de désespoir, administratives et professionnelles, pour les autres. À Valence, régulièrement, toutes les semaines, j'installais ma table d'écrivain public le samedi matin sur le marché. C'était au tout début. Puis très vite, je me suis déplacée dans d'autres lieux plus insolites ou imprévus, comme le hall d'une gare, la cour d'une école, l'entrée d'un supermarché, recueillant des textes, ou plutôt des traces d'écriture, des balbutiements de textes. Grâce à la magie de la feuille blanche ou des papiers de couleur, des encres, des plumes, des cahiers, que je proposais comme élément et support d'écriture. Il fallait qu'affleure la tentation. J'installais ma table, mes objets d'écriture, à la fois rares et familiers, proches et lointains, comme si je dressais un décor et construisais un lieu public, mais intime, provoquant la surprise chez l'un, le souvenir chez l'autre, et surtout, cette envie de toucher, de tracer qui précède le désir d'écrire. Bien sûr, ce désir d'écriture ne demande qu'à s'exprimer pour se muer en plaisir. Quelquefois, peu après, apparaît le désir de lecture. Feuilleter un livre. Cheminement logique et tout naturel lorsque je suis invitée à intervenir dans une bibliothèque ou dans une fête du livre. En réalité, il s'agit toujours d'une sorte de pratique inaugurale, d'une première fois qui exige d'être préservée. Pour susciter le désir d'écriture et l'aider à s'accomplir, il faut en effet répondre à d'innombrables conditions fragiles et ténues. Tout d'abord, faire preuve d'attention et de respect. Savoir être présent, mais s'effacer dans la présence de l'autre. Savoir garder le silence. Par exemple, se taire sur les fautes d'orthographe et des grammaires. Avoir le sens de la parole, connaître la charge de sens que peuvent porter certains mots. Offrir une aide toujours personnelle. Un simple accompagnement peut débloquer des refus et des frustrations accumulées depuis longtemps. Alors l'envie et la passion ressurgissent en une bouffée de plaisir dans laquelle s'éprouve une complicité magnifique. Il y a aussi, bien entendu, la non-obligation d'écrire. Je voudrais faire découvrir que l'acte d'écrire est d'abord un acte de création et que la vraie communication passe par là. Le silence qui parle, écouter écrire. Récit, lettres, commentaires, analyse. C'est tout simplement de mon travail que je veux parler dans ces pages. De mes rencontres, c'est-à-dire de ce que les autres m'ont appris et donné. Parler avec mes mots et mes phrases, mon goût de l'écoute et de la parole. Dans la forme qui m'appartient, je voudrais essayer de retracer pour moi-même et pour les autres les grands traits de ces 15 années d'action contre l'exclusion, par l'écrit. Cette action a été entreprise dans la plupart des régions de France et dans les lieux les plus divers, les écoles, les centres de formation, les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, les stages d'insertion et de réinsertion, combien de réinsertions successives, les quartiers défavorisés, les fêtes du livre, les bibliothèques, mais aussi la rue, et tellement de lieux publics. Comment porter témoignage de toutes ces expériences humaines si quotidiennes et pourtant si précieuses et ne pas les trahir? Une expression contradictoire. Le mot « écrivain » renvoie immédiatement à une notion d'individualité. Un écrivain exprime sa singularité. Le mot « public » renvoie, au contraire, à la masse des gens. une communauté plutôt indifférenciée. J'aime la singularité des écrivains, leur rage d'exprimer leur propre vision de l'être et du monde. L'écriture dit d'abord qu'un être est unique. Cependant, pour moi, l'expression « écrivain public » affirme une dimension sociale qui ne peut pas être négligée. L'acte d'écrire doit être ouvert à tous, y compris à ceux qui ne peuvent y avoir accès d'emblée par leurs propres moyens. L'écriture se dit dans beaucoup de sens. Il y a des gens qui ne savent pas écrire, d'autres qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus. À ce point, vraiment chacun doit mesurer l'importance de l'écriture pour lui-même et pour les autres. Il m'est arrivé personnellement d'être interdite de parole, soit parce que j'étais trop jeune, soit parce que j'étais plus ou moins exclue du monde dans lequel je vivais. Je me trouvais alors recluse dans une situation de censure, mais aussi d'écoute, d'attention exacerbée. Ainsi, très vite, j'ai pu constater que l'écriture est l'un des rares espaces où l'on peut évoluer en toute liberté, sans être dérangé. Prenons les choses simplement. Lorsque quelqu'un est en train d'écrire, personne ne vient lui dire qu'il fait trop de bruit, qu'il doit aller écrire ailleurs. Quand on est seul, on ne peut pas parler, dialoguer. L'écriture, elle, offre une solitude peuplée, si j'ose dire. Pour écrire, il n'est nullement besoin d'avoir un destinataire immédiat. Celui-ci peut être imaginaire, inaccessible, encore inconnu, déjà disparu. Le destinataire peut être soi-même. L'écriture permet d'aller jusqu'au bout de sa pensée, de sa volonté, sans être interrompue par des paroles, par des regards, par les interprétations de l'autre. On peut écrire aujourd'hui ce qu'on voulait dire hier, ce qu'on voudra communiquer demain. Colère, espoir, désespoir, amour, enthousiasme, affection, reconnaissance, peine, douleur, étonnement, incompréhension, demande, requête, information, appel, invitation, annonce. On peut aller jusqu'au bout. Point n'est besoin de donner à lire immédiatement ce qu'on a écrit, ni de le relire soi-même tout de suite. L'écriture permet de garder, de cacher, de différer, de préserver ce qu'on possède de plus intime, puis de reprendre les mots et les lignes ainsi tracées, de les modifier, de sourire, d'être étonné, guéri, ému, heureux ou triste. Tout est possible avec l'écrit. L'écriture oblige à la réflexion, offre du temps ou incite à prendre son temps. Elle confronte à la lecture aussi. C'est ce qui s'est passé pour moi depuis toujours, comme pour beaucoup d'autres. La simple écriture m'attirait, me portait vers les gens. Or, quand on pratique l'écriture pour soi, pour le plaisir et par nécessité, lorsqu'on aime communiquer, parler et écrire, au point que ça devient une sorte de mode d'existence, pourquoi ne pas en faire une activité sociale, un métier ? Il ne reste plus dès lors qu'à mettre une plaque sur sa porte. À plus forte raison si des circonstances personnelles liées à des recherches et à des acquisitions psychologiques vous amènent à penser très sérieusement que vous possédez vraiment les qualifications nécessaires à l'exercice de cette profession. Oui, pourquoi ne pas devenir écrivain public ? Écrire pour l'autre, afin qu'il signe de son nom. Être écrivain public, c'est bien sûr écrire, tout écrire, sans distinction, pour les autres, tous les autres, sans distinction. Ceux qui ne savent pas, ne peuvent pas, n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, n'ont plus envie, n'osent pas. À partir de là s'instaure une véritable règle des devoirs et des droits d'une activité professionnelle certes très particulière. L'écrivain public n'est pas que ce personnage de folklore dont l'existence étonne ou fait sourire. Sa qualité première est la transparence. Il doit savoir écouter, beaucoup, sans interrompre, questionner, sans importuner, discerner sans juger, suggérer avec délicatesse, exprimer avec conviction ce qui ne correspond pas forcément à sa pensée ou à ses opinions. Il doit aussi accepter de ne pas être signataire de ce qu'il écrit, et surtout de ne pas connaître forcément la suite de l'histoire. En fait, écrire pour l'autre, c'est offrir à des gens la possibilité d'être reconnus dans leur message, en tant que sujet, c'est-à-dire de signer de leur nom. Le plus souvent, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais eue, ou qui l'ont perdue et se la réapproprient. C'est là que ce métier reste dérangeant, comme il le fut toujours au cours des siècles. J'en veux pour preuve les difficultés que rencontre l'écrivain public à travailler dans un petit périmètre ou dans une maison de quartier, voire dans un établissement public. Car ce sont bien souvent des réclamations ou des doléances qui viennent se faire écrire. Si par hasard un organisme vous a offert gracieusement un lieu de permanence, bien vite, dès que les lettres problématiques commencent à parvenir à leur destinataire, on ne manque pas de trouver de bonnes raisons anodines pour aller vous faire écrire ailleurs. Clé perdue, chauffage en panne, travaux de réfection, etc. C'est la raison pour laquelle l'écrivain public doit être totalement indépendant des structures existantes et demeurer libre de ses actes, ce qui n'est pas facile. Comment trouver un lieu d'accueil et comment se faire connaître des gens? À Valence, où j'ai débuté, j'habitais un petit appartement au rez-de-chaussée avec des fenêtres donnant sur la rue à hauteur des passants. Il a suffi que je marque « écrivain public » sur l'une de mes fenêtres pour que l'aventure commence.